Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, serviteurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie peut renforcer la force afin de surmonter le problème d'Al-Aqsa. CIPEI coopère avec les médias sociaux pour savoir l'existence des terroristes. L'Indonésie a le potentiel de devenir la partie du G7. Le Parlement soutient la radiodiffusion de Radio République Indonésie aux frontières. L'Indonésie est menacée d'intervention étrangère. Et enfin, Festival d'Indonésie à Moscou. Voici le journal complet. Le membre de la Commission 1 du Parlement ou DPR, Sukamta, a déclaré lundi à Jakarta que l'Indonésie pouvait mobiliser la puissance des pays afin de donner l'engagement commun pour résoudre les problèmes en Palestine, en particulier dans la mosquée Al-Aqsa. Dans ce cas, le ministère des Affaires étrangères ou même le président doit intervenir pour inviter les pays qui peuvent donner l'engagement afin de résoudre le problème. Selon Sukamta, ce qui a été fait par l'Israël ne peut pas être fait face sporadiquement et réactive, mais il faut être optimiste que l'Israël peut être jugé à condition que la lutte doit être faite ensemble et continue et compacte. Sukamta a apprécié la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, qui a travaillé dur pour unir leurs forces pour aider à résoudre la question de la Palestine, en particulier à Al-Aqsa. Mais les mesures prises doivent être plus stratégiques. Par exemple, l'Indonésie doit prendre une initiative de leadership pour mobiliser toutes les forces. Six pays ont adhéré à la réunion sous-régionale sur les combattants terroristes étrangers et le terrorisme transfrontalier, établiront des coopérations avec une société de médias sociaux pour savoir l'existence des terroristes. Six pays, à savoir l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie, le Brunei, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le ministre coordinateur des affaires politiques, justice et sécurité, Wiranto Amanado, a déclaré dimanche que l'un des points convenus à la réunion était d'encourager la coopération entre les six pays et la coopération avec les entreprises qui fournissent des services de médias sociaux, le partage de fichiers vidéo et la messagerie. Selon le ministre Wiranto, les entreprises de médias sociaux aideront les CIP de chercher l'existence de terroristes ou de lutter directement. Le gouvernement va maximiser le rôle des médias sociaux pour contrecarrer l'influence du radicalisme et du terrorisme. L'Indonésie a le potentiel de faire partie du G7 ou d'un groupe de 7 pays avec la plus grande économie du monde. Ce potentiel peut être réalisé grâce au développement des zones éloignées, à l'égalité d'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants indonésiens et à la fourniture d'infrastructures de base adéquates pour la communauté. Ceci a été transmis par Martin Stotel, chef de la coopération au développement économique ou SECO de l'ambassade de Suisse en Indonésie, lors d'une interview spéciale avec La Voix d'Indonésie à Jakarta.
Indonesia has the potential to be part of G7, the organization for the seven biggest economies.
L'Indonésie a le potentiel de faire partie du G7, l'organisation des sept plus grandes économies du monde pendant les deux décennies. partager les nouvelles valeurs à tous en stimulant le développement des zones rurales, en donnant à tous les enfants indonésiens les chances d'avoir accès à une éducation de qualité et à la disponibilité des infrastructures de base nécessaires et à une qualité décente sera cependant essentielle pour atteindre cet objectif. Selon Stotel, la Suisse espère que l'Indonésie peut réaliser cette réalisation. En outre, il a déclaré que la Suisse continue de s'engager à aider l'Indonésie à réaliser cette réalisation. Le président de la Commission du Parlement de l'Indonésie, Abdul Haris, soutient pleinement la Radio République Indonésie, ou RRI, de concentrer ses émissions à la frontière indonésienne. Selon lui, à chaque frontière indonésie, les émissions et l'information sont importantes. C'est ce qu'a affirmé Abdul Haris à RRI Jakarta lundi le 31 juillet 2017. Des résultats de la visite de la Commission à la frontière, il y a quelque temps, il n'y a pas trop nombreuses émissions de la frontière provenant d'Indonésie. Il espère donc que le gouvernement au ministère des Communications et des Technologies de l'Information, y compris RRI et TVRI, priorise des programmes dans les régions frontalières. La Commission du Parlement soutiendrait toujours la proposition du gouvernement, dans ce cas RRI et TVRI, liée au budget pour la diffusion à la frontière indonésienne. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple MPR de l'Indonésie, Ousmane Sabta, a socialisé des quatre piliers de MPR à Surabaya, Java Est. Ousmane Sabta a déclaré « L'Indonésie était actuellement menacée par l'intervention étrangère. Ces menaces sont entre autres l'existence du désir de dominer les ressources naturelles indonésiennes, le charbon, l'or et d'autres matières minérales. » Selon lui, à cause de ce problème, l'Indonésie a subi la pénurie de l'énergie. Ousmane Sabta a souligné « Il faut que les produits du charbon soient transformés dans le pays jusqu'au produit final. » D'autres menaces, selon lui, sont la volonté des étrangers à saisir le secteur économique. Des stupéfiants et des drogues ou des matériels dangereux sont un moyen de détruire l'Indonésie. Il a ajouté « Pour contrer ces menaces, il faut maintenir fermement Pancasila, la Constitution 1945, la République unitaire d'Indonésie et Bhinneka Tunggal Ika. » L'ambassade d'Indonésie à Moscou organisera le deuxième festival d'Indonésie qui aura lieu du 4 au 6 août 2017 à Hermitage Garden, comme la suite du succès du festival Indonésie 2016 qui a réuni plus de 68 000 personnes. Le thème du festival est « Visite l'Indonésie, profiter de sa diversité ». Son objectif est d'introduire des autres zones destinations touristiques indonésiennes qui ne sont pas encore bien connues. Le festival sera précédé du forum d'affaires le 4 août 2017 qui sera assisté par environ 300 entrepreneurs à la fois de la Russie et de l'Indonésie. Selon le communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Moscou, lundi, le ministre du Commerce, Enggartia Stolokita, sera le conférencière. Cet festival de l'Indonésie, cette fois-ci, sera également assisté par les 5 gouverneurs, 8 régents ou maires, ainsi que près de 600 personnes, se composant d'entreprises, les hauts fonctionnaires du gouvernement et des artistes de diverses provinces d'Indonésie. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Serviteur, voici donc le commentaire et pour le titre « Prévenir la cybercriminalité en Indonésie ». Samedi, le 29 juillet, il y a eu un raid sur une maison à Jakarta soupçonnée d'être un lieu d'activité internationale de cybercriminalité. Ce raid a été mené conjointement par le groupe de travail de la police indonésienne et la police de la République populaire de Chine. 27 personnes ont été arrêtées, tous sont des ressortissants chinois. Selon les informations, ils ont commis des crimes depuis mars 2017. Ils ont affirmé que leur mode, ils prétendaient être des policières ou des procureurs et ils ont intimidé leurs victimes qui auraient été impliquées dans un cas particulier. Leurs victimes ont été menacées de geler leur compte, sinon d'envoyer de l'argent. Les victimes sont en fait des citoyens chinois. Ce crime est révélé parce qu'il y a des rapports de victimes qui ont été trompés. en plus de Jakarta, quatre autres villes indonésiennes telles que Bali, Batam et Surabaya auraient également été devenues des lieux de cybercriminalité. En outre, il existe également un autre cybercrime qui vise même les enfants. Habituellement, le crime se fait par les médias sociaux, par l'exploitation sexuelle, à travers les médias en ligne. Le gouvernement, via le Bureau de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'enfance de la ville de Semarang, anticipe le cybercrime contre les enfants, collaboration avec une fondation qui s'occupe des enfants. En plus de rappeler aux parents comme première prévention et protection face à ce crime, il existe sept médias sociaux utilisés couramment par les enfants, tels que BBM, WhatsApp, LINE, Facebook, Instagram, Twitter et PAT. Apparemment, dans les médias sociaux, le cyberharcèlement arrive fréquemment. En outre, les enfants sont présentés avec un contenu pornographique très facile à accéder ou même à devenir victime d'exploitation sexuelle dans le cyberespace. Un tel fait est très alarmant que l'Indonésie soit désormais une cible de cybercriminalité. Le flux de la modernisation, en particulier par le biais du multimédia, ne peut pas être arrêté. Par conséquent, le public devrait être plus vigilant et plus sage d'utiliser les médias sociaux, en particulier pour les enfants. Les parents doivent pouvoir surveiller leurs enfants et prévenir les impacts négatifs. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Serviteur, bonsoir. Nous continuons notre programme avec l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement, le début de la Première Guerre mondiale, le 1er août 1914. Le 1er août 1914, 4 jours après l'Autriche-Hongrie ont déclaré la guerre contre la Serbie, l'Allemagne et la Russie ont déclaré la guerre. La France a alors ordonné une mobilisation générale. Pendant 3 jours suivantes, la Russie, la France, la Belgique et l'Angleterre ont lutté contre l'Autriche, la Hongrie et l'Allemagne. La première grande guerre a éclaté. Cette guerre a été mentionnée celui qui a causé des grands dommages. Environ 20 millions de soldats et de civils ont été tués. L'autre information est sur le dernier tour de la réunion de la conférence sur la sécurité et la coopération de l'Europe, le 1er août 1975. Le dernier tour de la réunion de la conférence sur la sécurité et la coopération de l'Europe qui a eu lieu à Helsinki, la Finlande, a été marqué par la signature de l'acte final. Il y a 35 chefs d'État et de gouvernement de l'Europe, les États-Unis et le Canada se sont réunis pour la signature de l'acte final. Les chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents, entre autres, le président des États-Unis Gerald Ford et le président russe Leonid Brezhnev. Le 1er août 1980, Vigdís Finnbogadóttir est la première femme élue présidente de la République d'Islande. Il a été le président de 1980 à 1976. En plus d'être la première femme présidente en Islande et en Europe, Vigdís Finnbogadóttir est la première femme présidente du monde élue démocratiquement. Elle est également devenue la présidente la plus longue de toute femme présidente élue dans le pays à ce jour, à savoir 16 ans. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la mort de Corazon Aquino, l'ancienne présidente des Philippines, le 1er août 2009. Maria Corazon Sumulong Cojuangco Aquino est la présidente des Philippines en 1986 jusqu'en 1992 après une révolution sans effusion de sang People Power. Aquino est la première femme présidente aux Philippines et en Asie. Aquino a réussi à renverser le dictateur Ferdinand Marcos qui a régné pendant 20 ans aux Philippines. Cory Aquino était l'épouse du chef de l'opposition populaire, le sénateur Benigno Aquino Jr. Son mari était tué après l'atterrissage à l'aéroport international de Mani quand il est retourné dans son pays le 21 août 1983. Cory Aquino est décédé le 1er août 2009 à l'âge de 76 ans à cause de la maladie. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel du titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point. Et pour le titre, l'Indonésie et la Corée du Sud développent l'avion arrière-son KF-10 et IF-10. L'Indonésie et la Corée du Sud coopèrent pour développer des avions à réaction moderne KF-10 et IF-10. Les avions modernes de la génération 4.5 soutiendront la performance du système d'armement principal des militaires indonésiens à l'avenir. Selon le plan, KF-10 et IF-10 seront lancés en 2021 pour obtenir la certification de la planification du développement. Le prototype pourrait être utilisé en 2026 pour voler et manœuvrer bien. Pendant ce temps, au moins, les avions combattants seront exploités en 2030. C'est ce qu'a dit le président du Conseil de la recherche et du développement du ministère indonésien de la Défense, Anne Kusmayati, lors de la conférence de presse au ministère de la Défense à Jakarta. Anne a également déclaré que la coopération était très stratégique pour améliorer l'indépendance du système d'armement principal de l'armée indonésienne à l'avenir. Anne a également déclaré que cette coopération sera un partenariat stratégique pour renforcer l'indépendance des équipements de défense militaire à l'avenir. En outre, Anne Kusmayati a expliqué aussi que l'avion sophistiqué nécessite la dernière technologie sous licence des États-Unis, le système de ciblage électro-optique EOTS, le ciblage par le système infrared IRST, arrondi actif électroniquement scanné AESA radar et brouilleur de signaux. Bien qu'il pense que les États-Unis ne donneront aucun de ces technologies, y compris en Corée du Sud. Pour résoudre cette question, Anne Kusmayati a dit qu'elle invite le gouvernement indonésien à améliorer la diplomatie et la communication avec les pays producteurs pour publier des licences du développement pour l'Indonésie. D'autre part, selon Anne, la licence n'est pas la seule façon. Pour résoudre ces problèmes, le gouvernement d'Indonésie et la Corée du Sud étaient en visite en certain nombre de fabrications d'outils qui ont à peu près la même technologie à un certain nombre d'entreprises en Europe. Anne a expliqué que l'Indonésie devait avoir l'objectif de devenir un pays producteur de chasse et non seulement comme le pays de l'acheteur.
Program pengembangan ini tentunya memiliki satu sasaran strategis. Kita akan memenuhi rencana strategis.
Certainement, il améliorerait la performance de l'industrie de la défense et ce qui est plus important, nous avons la capacité de produire plus tard cet avion de combat qui permettra d'améliorer l'effet dissuasif. Le programme de développement doit avoir un objectif stratégique. Nous réaliserons le plan stratégique de l'avion de combat de TNI-AU avec les exigences opérationnelles nécessaires pour 2025 et 2040. Ensuite, il augmentera le niveau de l'indépendance d'équipement de la défense de combat qui est plus élevé. À l'avenir, nous ne serons plus un acheteur, mais dans l'avenir, nous serons un vendeur. Assurément, il améliorerait la performance de l'industrie de la défense et le plus important, nous avons la capacité de produire plus tard cet avion permettra d'améliorer l'effet dissuasif. Pour soutenir le développement des avions à réaction, Anne Kusmayati a déclaré que l'Indonésie a envoyé 81 ingénieurs de PT Dirgantara Indonesia à Korean Aerospace Industry, KAI, dans la ville de Sacheon pour obtenir un briefing sur le système et les standards des procédures de travail chez KAI. Pendant ce temps, le chef du Centre de recherche et de développement de la science et de la technologie de l'Agence de la science et de développement du ministère de la Défense, le maréchal Bambang Widjanako, dans le même événement, a déclaré que les avions en réaction nécessitent des outils technologiques qui proviennent principalement de la société américaine Lockheed Martin. Il a également expliqué que la Corée du Sud a effectivement accès à la licence de développement de l'équipement, car la Corée du Sud a déjà acheté plusieurs produits de Lockheed Martin, à savoir des avions en réaction F-35. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir. Le membre de la Commission du Parlement au DPR, Sukamta, a déclaré lundi à Jakarta que l'Indonésie pouvait mobiliser la puissance des pays afin de donner l'engagement commun pour résoudre les problèmes en Palestine, en particulier dans la mosquée Al-Aqsa. Dans ce cas, le ministère des Affaires étrangères ou même le président doit intervenir pour inviter les pays qui peuvent donner l'engagement afin de résoudre le problème. Selon Sukamta, ce qui a été fait par l'Israël ne peut pas être fait face sporadiquement et réactive, mais il faut être optimiste que l'Israël peut être jugé à condition que la lutte doit être faite ensemble et continue et compact. Sukamta a apprécié la ministre des Affaires étrangères, Retton Alpemarsudi, qui a travaillé dur pour unir leurs forces pour aider à résoudre la question de la Palestine, en particulier à Al-Aqsa. Mais les mesures prises doivent être plus stratégiques. Par exemple, l'Indonésie doit prendre une initiative de leadership pour mobiliser toutes les forces. Six pays ont adhéré à la réunion sous-régionale sur les combattants terroristes étrangers et le terrorisme transfrontalier, établiront des coopérations avec une société de médias sociaux pour savoir l'existence des terroristes. Six pays, à savoir l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie, le Brunei, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le ministre coordinateur des affaires politiques, justice et sécurité, Wiranto Amanado, a déclaré dimanche que l'un des points convenus à la réunion était d'encourager la coopération entre les six pays et la coopération avec les entreprises qui fournissent des services de médias sociaux, le partage de fichiers vidéo et la messagerie. Selon le ministre Wiranto, les entreprises de médias sociaux aideront les six pays de chercher l'existence de terroristes ou de lutter directement. Le gouvernement va maximiser le rôle des médias sociaux pour contrecarrer l'influence du radicalisme et du terrorisme. L'Indonésie a le potentiel de faire partie du G7 ou d'un groupe de sept pays avec la plus grande économie du monde. Ce potentiel peut être réalisé grâce au développement des zones éloignées, à l'égalité d'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants indonésiens et à la fourniture d'infrastructures de base adéquates pour la communauté. Ceci a été transmis par Martin Stotel, chef de la coopération au développement économique ou SECO de l'ambassade de Suisse en Indonésie, lors d'une interview spéciale avec La Voix d'Indonésie à Jakarta.
Indonesia has the potential to be part of G7, the organization for the seven biggest economies.
L'Indonésie a le potentiel de faire partie du G7, l'organisation des sept plus grandes économies du monde pendant les deux décennies. Partager les nouvelles valeurs à tous en stimulant le développement des zones rurales, en donnant à tous les enfants indonésiens les chances d'avoir accès à une éducation de qualité et à la disponibilité des infrastructures de base nécessaires et à une qualité décente sera cependant essentielle pour atteindre cet objectif. Selon Stotel, la Suisse espère que l'Indonésie peut réaliser cette réalisation. En outre, il a déclaré que la Suisse continue de s'engager à aider l'Indonésie à réaliser cette réalisation. Le président de la Commission du Parlement de l'Indonésie, Abdul Haris, soutient pleinement la Radio République Indonésie ou RRI de concentrer ses émissions à la frontière indonésienne. Selon lui, à chaque frontière indonésienne, les émissions et l'information sont importantes. C'est ce qu'a affirmé Abdul Haris à RRI Jakarta lundi le 31 juillet 2017. Des résultats de la visite de la Commission à la frontière, il y a quelque temps, il n'y a pas trop nombreuses émissions de la frontière provenant d'Indonésie. Il espère donc que le gouvernement au ministère des Communications et des Technologies de l'Information, y compris RRI et TVRI, priorise des programmes dans les régions frontalières. La commission du Parlement soutiendrait toujours la proposition du gouvernement dans ce cas RRI et TVRI liés au budget pour la diffusion à la frontière indonésienne. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple MPR l'Indonésie, Ousmane Sabta, a socialisé des quatre piliers de MPR à Surabaya, Java Est. Ousmane Sabta a déclaré « L'Indonésie était actuellement menacée par l'intervention étrangère. Ces menaces sont entre autres l'existence du désir de dominer les ressources naturelles indonésiennes, le charbon, l'or et d'autres matières minérales. » Selon lui, à cause de ce problème, l'Indonésie a subi la pénurie de l'énergie. Ousmane Sabta a souligné « Il faut que les produits du charbon soient transformés dans le pays jusqu'au produit final. » D'autres menaces, selon lui, sont la volonté des étrangers à saisir le secteur économique. Des stupéfiants et des drogues ou des matériels dangereux sont un moyen de détruire l'Indonésie. Il a ajouté « Pour contrer ces menaces, il faut maintenir fermement Pancasila, la Constitution 1945, la République unitaire d'Indonésie et Bhinneka Tunggal Ika. » L'ambassade d'Indonésie à Moscou organisera le deuxième festival d'Indonésie qui aura lieu du 4 au 6 août 2017 à Hermitage Garden, comme la suite du succès du festival Indonésie 2016 qui a réuni plus de 68 000 personnes. Le thème du festival est « Visite l'Indonésie, profiter de sa diversité ». Son objectif est d'introduire des autres zones de destination touristique en Indonésie qui ne sont pas encore bien connues. Le festival sera précédé du forum d'affaires le 4 août 2017 qui sera assisté par environ 300 entrepreneurs à la fois de la Russie et de l'Indonésie. Selon le communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Moscou, Langdi, le ministre du Commerce, Enggartia Stolokita, sera le conférencier. Cet festival d'Indonésie, cette fois-ci, sera également assisté par les 5 gouverneurs, 8 régents ou maires, ainsi que près de 600 personnes se composant d'entreprises, les hauts fonctionnaires du gouvernement et des artistes de diverses provinces d'Indonésie. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Nous voulons introduire la tradition Buangjung, donc restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la Voix d'Indonésie. Du 27 au 30 juillet dernier, la résidence de Bangka du Sud a lancé le festival culturel Tobuali City on Fire ou TCOF. Le festival qui a été organisé pour promouvoir une destination touristique de prédilection pour les touristes étrangers et les touristes nationaux a pour thème la diversité ethnique et culturelle. Environ 16 manifestations ont été organisées pour animer ce festival culturel. L'événement a été centré dans le terrain de la mer Nek Aji, Tobuali, Bangka Sud. Parmi les 16 événements organisés, il y a plusieurs événements culturels locaux. L'un d'entre eux est le rituel indigène Buangjung, étant tenu pendant une semaine. Le rituel indigène Buangjung est un rituel traditionnel du tribu Sawang au village Kumbung, le district Lempar Pongok, en résidence Bangka du Sud. Dans la langue locale, Jung signifie un petit bateau, donc le rituel traditionnel Buangjung signifie un rituel qui est effectué en retirant un petit bateau dans la mer. D'habitude, Ce qui flotte à la mer est un bateau miniature contenant des offrandes, comme le poulet à plumes noires. Un tel rituel traditionnel est conduit dans un effort pour se reposer la mer. Cela signifie qu'il devrait n'y avoir aucune activité effectuée en mer pendant une semaine depuis qu'on retire un petit bateau dans la mer. Dans une semaine, les pêcheurs ne sont pas autorisés à attraper des poissons, de tuer la vie marine, y compris la pêche. Pendant ce temps aussi, les touristes sont interdits de plonger en apnée et de plonger en bouteille. Ce rituel traditionnel est également organisé pour demander la protection et la sécurité afin que les gens évitent de la catastrophe pendant la navigation. Le rituel Buangjung commence avec faire des bateaux miniatures ou navires comme une forme de personnification ou les médias de liaison avec le Créateur. Le rituel commence la nuit environ 9h du soir, heure locale. Après l'ancien ou chaman indigène a prononcé des formules magiques comme symbole de l'ouverture de l'événement, la communauté locale chante et récite la poésie considérée d'avoir des pouvoirs magiques comme ils ont encerclé un bateau miniature. Ils chantent accompagnés d'instruments de musique traditionnelle de tribu Sawang. Cet événement se poursuit jusqu'à l'aube. Le pont culminant du Kitil Buangjung commence par un cortège de véhicules transportant des bateaux miniatures à Côte Mudung. À l'arrivée, les chefs traditionnels et les chamans tribaux font un rituel ainsi que prononcent quelques incantations pour la préparation de la sortie du bateau dans la mer. Puis, tenue des danses traditionnelles de la tribu Sawang par les jeunes locaux avec tambour. Après cela, le défilé de bateaux à l'océan après des effectués le rituel entourant le bateau avec les chansons et poèmes par tous les participants du rituel. Chers amis, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci d'être fidèles avec nous. Au revoir.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et qui vous guide de parler indonésien. Le sujet pour aujourd'hui est le salon kecantikan ou au salon de beauté. Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Salon kecantikan. Salon kecantikan. En français, salon de beauté. Mengapa, mengapa, en français, pourquoi. Suka, suka, en français, aimer. Karena, karena, en français, parce que. Tidak jauh, tidak jauh, en français, pas loin. Rumah, rumah, en français, maison. Bagus, bagus. En français, bon ou bonne. Murah, murah. En français, pas cher ou bon marché. Potongan harga. Potongan harga. En français, réduction. Tentu saja. En français, bien sûr. Pelanggan, pelanggan. En français, client. Mereka, mereka. En français, il ou elle. Ikut, ikut. En français, venir avec. Semoga, semoga. En français, espérer. Mencoba, mencoba, en français, essayer. Satu kali, en français, une fois. Jamin, jamin, en français, garantir. Serviteur, voici la conversation entre Anna A et Mary B dans la voiture. A. Mengapa kamu suka ke salon itu? Je répète. Mengapa kamu suka ke salon itu? En français, pourquoi aimes-tu ce salon? B. Karena salon itu tidak jauh dari rumah saya. Karena salon itu tidak jauh dari rumah saya. En français, parce que ce salon n'est pas loin de chez moi. B. Selain bagus juga murah. Selain bagus juga murah. En plus bon, il est aussi bon marché. A. Apakah mereka juga memberikan potongan harga? Apakah mereka juga memberi potongan harga? En français, est-ce qu'ils donnent également une réduction? B. Tentu saja. Tentu saja. En français, bien sûr. B. Karena saya adalah pelanggan mereka. Karena saya adalah pelanggan mereka. En français, parce que je suis leur client. B. Mereka sering memberikan saya potongan harga. En français, ils me donnent souvent une réduction. A. Kalau begitu, saya ikut dengan kamu. Kalau begitu, saya ikut dengan kamu. En français, donc, je viens avec toi. A. Semoga saya juga mendapatkan potongan harga. Semoga saya juga mendapatkan potongan harga. En français, j'espère que j'aurai une réduction. B. Setelah mencoba satu kali, saya jamin kamu akan menjadi pelanggan salon itu. Je répète. Setelah mencoba satu kali, saya jamin kamu akan menjadi pelanggan salon itu. En français, après que vous l'avez essayé une fois, je vous garantis que vous deviendrez le client de ce salon. Serviteur, c'était Apprendre l'Indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. À demain. Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous, voici le programme musical et cette fois je vais présenter des chansons de dangdut chantées par Ine Cynthia Anggraini, une chanteuse célèbre dans les années 90 grâce à l'album qui est très célèbre Seulement 5 minutes. Voici sa première chanson intitulée Jangan Sampai Tiga Kali. Bonne écoute.
Sakiti hati ini juga ku maafkan.
Serviteur, c'était la chanson d'Ine Cynthia intitulée « Jangan sampai tiga kali ». Ine Cynthia Anggraini ou Ine Cynthia est l'une des célèbres chanteuses de dangdut indonésienne après avoir repopularisé la chanson intitulée « 5 minutes ». Elle est née à Cianjur, l'ouest de Java, Indonésie, le 15 août 1971. Avant sa carrière comme une chanteuse en solo, elle était l'une des personnels de Duta, l'abréviation de 8 divas dangdut, et aussi le personnel de Manis Manja Group. Bon, chers amis, on écoutera la deuxième chanson intitulée « Jurang Perpisahan ». Bonne écoute. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse de dangdut, Ines Cynthia. Ines Cynthia a sorti beaucoup de chansons de dangdut, telles que la chanson intitulée Mémoire des feuilles de bananier, Robe rose. Beaucoup de chansons ont reçu le prix ou comme la nomination, y compris quand elle rejoint Manis Manja Group, qui a reçu le prix du meilleur groupe dangdut. Bon, chers amis, voici les dernières chansons intitulées Surga Jadi Neraka et Salah Mencintaimu, chantées par Ines Cynthia. Merci à tous et à bientôt.
toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.